Scribens O, Scribens A.
Cette émission se propose d'interroger les mystères de la création littéraire et poétique. Patrick Aveline, poète marseillais mais pas seulement, nous parle ici de ces mots qui, je le cite, « reviennent toujours ». Bonjour Patrick, merci de m'accorder cette interview. Alors on s'est rencontrés aux scènes ouvertes du Parvis des Arts. Et puis j'ai eu l'occasion de lire quelques fragments de tes textes sur les réseaux sociaux. Et tu as sorti il y a peu un recueil de poèmes en prose et tu en as fait des dédicaces jeudi dernier, dédicace à laquelle j'ai assisté, et au cours de laquelle tu disais qu'enfant, tu ne lisais pas, mais qu'il y avait chez toi quantité de dictionnaires, d'encyclopédies, que tu appréciais tout particulièrement. Les mots.
Oui.
Et on y revient toujours, c'est le titre de ton recueil. On revient toujours aux mots, justement. Est-ce que on y revient toujours, c'est l'objet de ton recueil, en plus du titre ?
Oui, oui, bonjour Marie. Oui, en effet, on y revient toujours, c'est en plus du titre l'objet du recueil. On y revient toujours, c'est une double entrée. À la fois, on revient toujours au rebord de ma fenêtre, qui me permet de voir donc, les paysages qui m'inspirent, et on y revient toujours aussi donc, aux mots qui permettent donc, d'articuler ces inspirations, ces mots qu'on peut parfois chercher, qu'on essaye de débusquer ou qui tombent à pic.
Alors, est-ce que tu pourrais donner une définition d'un mot ? Un mot, c'est quoi pour toi ?
Alors, un mot, c'est comme une amoureuse, un petit peu. On aime jouer avec elle, on aime le cajoler, le ou la. Donc le mot, et on aime les associer pour prendre plaisir.
Et je me suis posé cette question de savoir si pour toi, les mots ont plus d'importance que le récit, que l'histoire, que l'usage qu'on en fait pour les mettre au service de la narration, avec des personnages, des péripéties, un point initial, un point final. Le goût des mots, avant tout, c'est la poésie qu'ils manifestent, non ?
Oui, alors effectivement, les mots sont très importants, mais ils n'égalent pas le niveau du récit. Alors, les mots, chez moi, c'est le goût pour leur esthétique, pour leur étymologie. Chez moi, avec mon père, on parlait de longs moments sur la signification de chaque mot dès qu'il nous interpellait. Donc effectivement, les mots sont très importants. J'ai pu écrire des récits ou en tout cas des petites nouvelles où les mots étaient les héros. J'ai pu écrire même un récit une fois où ce sont les lettres qui ont permis de créer l'histoire. Mais l'histoire est avant tout la plus importante, oui. Non, je la mettrais un cran au-dessus. Les mots ne sont pas, pour répondre à ta question, plus importants que le récit et que l'intrigue ou le déroulé d'une histoire.
Et quand, parce que tu t'es par ailleurs intéressé à la vie de ton arrière-grand-père, dont tu as écrit la biographie,
oui.
En l'occurrence, là, il s'agissait d'une forme de récit, quelque part.
Oui.
Alors, comment as-tu combiné les mots dans ce cas-là, dans cette figure de style du récit ?
Alors, il faut juste préciser quelques petites choses. Donc, ce récit biographique est issu de 2 années de recherche. Et le terreau qui m'a permis d'écrire cette biographie, ce que j'ai pu retrouver de ce qu'a pu écrire mon arrière-grand-père, qui était un poète émérite. J'ai retrouvé un recueil de poésie qu'il a écrit donc au tout début du XXe siècle, dans la brousse. J'ai retrouvé aussi une pièce de théâtre à lui qu'il avait proposée à l'Odéon à Paris. J'ai retrouvé des correspondances, des récits de voyage qui étaient à la fois soit amusants, soit qui avaient un caractère ethnographique. Et donc mon récit m'a permis de recentrer ses lettres et ses correspondances avec son frère sur l'actualité du moment, donc un recentrage historique. Donc c'est un récit vraiment historique. Et également, ça m'a permis de mettre l'accent au travers de sa poésie, qui est assez lyrique, sur sa vie personnelle.
Et finalement, ton écriture à toi était le lien entre ces différents
écrits,
aux correspondances, écrits, poèmes, pièces de théâtre.
Tout à fait.
Et ce lien avait une caractéristique spécifique.
Alors, il y a peut-être. J'ai essayé d'être assez factuel. Il y a peut-être par-ci par-là quelques petites envolées poétiques, en tout cas profondes. Je ne saurais pas les qualifier poétiques, généalogiques aussi, où je parle, je remonte des siècles comme ça. Et donc effectivement, c'est du liant entre ce qu'a écrit mon arrière-grand-père, et c'est aussi une manière de m'être immiscé dans sa vie, d'avoir un petit peu vécu ses malheurs, beaucoup de malheurs, à sa place, en essayant de me mettre à sa place.
C'est étrange ça. Je dis, tu en faisais carrément l'éloge en fait de cet aïeul, et comme étant le poète que tu aurais pu être. Et là aujourd'hui tu me dis que tu as vécu les souffrances qu'il a vécues au cours de sa vie.
Oui, parce que ça, essentiellement grâce à ses sonnets. Donc il a écrit, je crois, une soixantaine de sonnets lors d'une mission topographique dans les montagnes anamitiques, où il devait tracer des cartes géographiques d'état-major pour ensuite, enfin en tout cas faire des relevés pour faire les cartes plus tard. Et donc chaque soir il écrivait deux sonnets à la fin de ses journées, et ces sonnets retracent vraiment... soit il y a des réminiscences de sa jeunesse, soit de son amour, donc contrarié, du manque de ses enfants, beaucoup de peine. La peine de ne pas être suffisamment savant pour soigner un enfant, la peine de ne plus aller voir le théâtre à Paris... Beaucoup de choses comme ça. Donc effectivement, j'ai vécu avec lui, oui.
Et en écrivant toi à ton tour, est-ce que tu essaies de poursuivre son travail, de lui donner une nouvelle vie, une autre vie?
Alors je ne crois pas. Je ne crois pas, même si effectivement j'ai pu dire de sa poésie, je le dis, je crois, dans l'ouvrage, j'ai pu dire que si j'avais eu son talent, j'aurais pu écrire la même chose. Mais il s'avère que j'ai écrit des choses différentes.
Pourquoi tu dis que tu as moins de talent que lui?
Parce que je trouve qu'il a une très très belle langue, bon, très classique. C'est quand même pas donné à tout le monde d'écrire deux sonnets chaque soir après une journée en brousse. Je ne sais pas si tout le monde est capable de ça, qui sont impeccables au niveau métrique, au niveau rime, qui font référence à une culture vaste, j'ai l'impression, en tout cas artistique, vaste. Donc, par modestie peut-être.
Et est-ce que finalement, le fait d'écrire ces deux sonnets chaque soir, c'était de purs exercices de style, ou l'émotion prenait le dessus, ou les deux?
Je pense que ce sont les deux. Ouais, les deux. Les deux, oui, il y a une intense émotion dans chacun de ces poèmes. Certains sont un petit peu plus obscurs, mais c'est rare. On les lit facilement, c'est suffisamment ouvert pour qu'on les comprenne aisément. en tout cas pour moi, qui est peu à peu retracé sa vie avec ses différents voyages, ses séparations, etc. Donc on les comprend facilement, oui.
De toute façon, on va retomber sur nos pattes puisque je voulais évoquer ton style à toi. Tu parlais du style de ton arrière-grand-père. Mmh. Et comment qualifierais-tu ton style ?
Alors, ça c'est assez difficile à répondre, mais je fonctionne beaucoup à l'impression. On pourrait dire que j'ai une poésie qui est impressionniste. Puisqu'elle répond à ce critère-là.
Impressionniste au sens où
c'est l'impression qui crée
l'impression au sens de l'image, oui. Qui s'imprime devant toi, comme lorsque tu évoquais le théâtre à ta fenêtre.
Oui, mais c'est ça, c'est tout à fait ça. Hein. Oui, mais même si j'aime pas les qualificatifs, effectivement, impressionniste, je capte une image, un son, un mouvement, le bruit du vent, l'immobilisme, je sais pas, une odeur agréable, et je transcris mon impression.
Et
c'est ce qui prédomine en tout cas dans, oui.
Ce qui prédomine. On parlera tout à l'heure de tes thèmes de prédilection, mais tout comme tu accordes beaucoup d'importance aux mots, j'ai cru comprendre que tu accordais aussi beaucoup d'importance à la ponctuation. Est-ce que je me trompe ?
Non, c'est vrai. Effectivement, la ponctuation est très importante. Il m'arrive d'hésiter à la position d'une virgule pendant de longs moments, à relire et relire et réécrire, et à dire surtout, pour connaître la musique qui peut se dégager avec ou sans la virgule. Il m'arrive aussi d'écrire sans la moindre ponctuation, quand j'écris en vers, parce que mon dernier recueil, effectivement, est un recueil en prose, mais j'ai de multiples manières d'écrire la poésie. Donc j'écris très souvent aussi en vers, des sonnets ou autres, en vers décasyllabiques ou des dodécasyllabiques, c'est-à-dire en alexandrin, rimé, de diverses manières. Tout ça pour dire que lorsque j'écris en vers, il n'y a pas de ponctuation, ce sont les vers qui la font.
À quelle fréquence écris-tu, réécris-tu ? Le rythme a une importance certaine pour toi, donc j'imagine que tu es amené à réécrire, à te lire peut-être même à haute voix, pardon, pour ensuite réécrire. Quel est ton processus de création d'écriture ?
Alors en fait, bon, pour répondre d'abord à la première question, oui, j'écris beaucoup. Depuis quelques années, presque quotidiennement. Mais ça n'a pas été toujours le cas. Je ne crois pas que ce soit un besoin. Si je n'écris pas, je ne ressens pas de frustration, je ne me sens pas malheureux, donc je ne le ressens pas comme un besoin. Je ne suis pas en manque. Non, si j'écris beaucoup, c'est parce que je sais que ça va être un moment de plaisir, de joie même. Créer me remplit d'allégresse et me permet de jouir du moment. Il me comble. Et la seconde question, c'était, est-ce que je réécris ? C'est ça, hein ?
Oui, est-ce que tu réécris dans la mesure où le rythme a beaucoup d'importance
Alors,
pour toi ?
Je peux réécrire si on parle d'un ensemble de poèmes que je vais rassembler dans un recueil. À ce moment-là, je peux modifier certains aspects de certains poèmes pour qu'il y ait peut-être un petit peu plus de lien entre eux. C'est à ce moment-là que je vais réécrire. Sinon, je ne réécris pas mes poèmes.
Et même lorsqu'ils sont lus lors des scènes vertes, parce qu'il faut dire aussi que je l'ai évoqué au tout début, mais que tu participes à des scènes vertes, est-ce qu'après la lecture devant ces spectateurs, ces auditeurs, tu es amené à retravailler les textes ?
Alors, retravailler, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, je suis attentif effectivement aux réactions du public. Et parfois, il m'arrive même d'improviser, quand ce sont des textes qui sont peut-être un peu moins poétiques, d'improviser, de rajouter des phrases, des mots. Et je suis attentif aux réactions de ces improvisations pour savoir si elles fonctionnent ou pas. Et donc, du coup, de réécrire ou pas.
Ensuite,
a posteriori.
A posteriori. Et qu'est-ce que tu as envie de véhiculer, d'apporter à ce public en disant ces textes?
Ah oui. Alors, consciemment, je ne saurais pas dire. Ceci dit, il m'arrive ces derniers temps de remarquer des comportements dans le public. Comme par exemple des gens qui ferment les yeux par moments, comme s'ils étaient concentrés sur ce que je dis. Je vois même parfois des gens qui bougent comme s'ils étaient dans un rythme, comme ça, avec leur torse d'avant en arrière. Des sourires se dessiner parfois sur les visages. Tout ça, c'est un retour qui me plaît, qui me remplit de bonheur, oui, de voir le public réagir à ce que je dis ou scande parfois.
Avec une réaction donc physique et corporelle, et d'ailleurs toi-même, dans ton écriture, dans ton processus d'écriture, le corps a beaucoup d'importance parce que je crois que tu écris en marchant à l'occasion de randonnées.
Oui, effectivement, j'écris en marchant et en particulier lors d'itinérances pédestres au long cours, où là je suis immergé dans une forme de solitude, même pas une forme, dans la solitude, puisque j'essaie d'emprunter des sentiers qui sont le plus souvent peu empruntés. Donc il m'arrive de passer des journées de 8 à 10 heures sans croiser le moindre humain. Et effectivement, dans ces moments-là, j'ai tout loisir grâce à la marche. La marche, comment dire, permet, justement parce qu'elle est longue, à ce que l'esprit s'évade et pense à mille choses qui vont rester, en tout cas certaines, ancrées pour être retranscrites soit pendant la journée de marche, soit le soir même.
Est-ce que finalement, ce qu'il va rester le soir même sur le papier ou sur le téléphone, c'est la quintessence de toutes les pensées qui ont défilé dans ta tête pendant la journée?
Mais j'essaye en tout cas, j'essaye effectivement de... D'en retirer cette substantifique moelle. Il m'est arrivé de me poser un quart d'heure, une demi-heure pour vraiment écrire sur le moment même, mais lorsqu'on est comme ça en randonnée au long cours, ben on n'a pas le temps en fait, il faut arriver jusqu'à l'étape. Je prends beaucoup de notes, soit sur mon téléphone en les dictant, soit en écrivant quelques idées qui vont me permettre de retrouver toute ma pensée, juste deux, trois mots qui me permettront d'être les déclics de ce à quoi j'ai pensé. Le soir, effectivement, j'ai souvent hâte d'arriver, de peur d'avoir oublié tout ce qui m'a traversé. Et donc la première chose que je fais lorsque j'arrive là où je vais dormir, ben, j'écris pendant une heure ou deux, malgré la fatigue.
Et malgré tout, est-ce qu'on peut dire que tu écris avec ton corps?
Est-ce que j'écris avec mon corps? On pourrait faire cette analogie, effectivement, puisque c'est la marche qui crée la pensée, et puis la pensée crée donc l'idée, et l'idée est retranscrite par les mots, donc tout ça est lié, oui.
Donc finalement, il y a un rapport du corps en mouvement, en mobile, Qui passe ensuite par la main.
Oui, par l'esprit, la main.
Par l'esprit ensuite, et la main. Et la main qui aussi s'active. Enfin, il y a quelque chose de l'ordre, de la circularité du mouvement, pensée, corps.
Oui, oui, je vois ce que tu veux dire par rapport à la main et, la, et l'écriture avec des formes de cercle. Oui, 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 en effet, et ce carnet, ce petit crayon gris, ce sont vraiment deux amis. D'une part parce que j'aime bien écrire avec un crayon gris, parce que je trouve que c'est très, très sensuel. Donc ça aussi, c'est le corps. Et les pages sont particulièrement lisses, là aussi c'est très sensuel, donc ça fait partie du corps. Et parfois j'ai l'impression que ce sont, voilà, c'est pas moi qui guide ma main pour écrire les mots, c'est parce qu'il y a cette espèce de fluide qui me permet de guider ma main sur ce que je vais écrire.
Que tu ne maîtrises pas forcément peut-être, intellectuellement.
Non, sans doute pas totalement.
Et quand tu parles de stylo gris en stylo papier,
c'est ça, un crayon à papier ou un critérium, quoi. Oui.
C'est pas nécessairement parce qu'on peut gommer, c'est vraiment pour non. La sensualité, le fait que
ça glisse.
Le fait que ça glisse sur le, oui. Sur le papier.
Oui, oui, je prends pas de gomme, non, je rature, oui, effectivement. C'est beaucoup moins pratique qu'un ordinateur, mais c'est plus jouissif, on va dire.
Alors, tu dis que tu dictes aussi à ton téléphone certains ouais. fragments de ta pensée
oui.
pour ne pas les oublier et les écrire le soir. Est-ce qu'on peut dire aussi que tu écris avec ta voix ? Ou c'est un prélude à l'écriture ?
Alors, je ne crois pas que j'écrive avec ma voix. Ou alors, oui. Oui, j'écris avec ma voix parce que... En étant seul de si longues heures, j'ai besoin d'entendre ma voix. Je parle à la nature, je me parle, et la voix est-elle aussi, serait, je mets au conditionnel, elle aussi composante de mon processus de création, peut-être.
Alors, on a évoqué la randonnée dans la nature, bien évidemment. C'est non seulement un sujet de prédilection, je pense, mais c'est comme quelqu'un, quelqu'une, avec qui tu converses.
Oui.
Et j'ai le sentiment même que si le rendez-vous n'est pas honoré, puisque tu as besoin d'écrire au quotidien, il y a presque quelque chose de l'ordre de la frustration, presque amoureuse, et je répète, finalement, c'était une question que j'avais prévue à l'avance, mais tu y as répondu précédemment. Est-ce que tu peux, dans ce cas-là, préciser ta pensée ?
Donc, savoir si je ressens une frustration presque amoureuse si je ne suis pas au rendez-vous, c'est ça la
question. Si tu n'es pas au rendez-vous, si tu n'écris pas, si tu n'es pas au contact de cette nature que tu honores et qui t'honore. On ne sait plus très bien d'ailleurs...
Dans quel sens ça fonctionne.
Si c'est elle qui t'inspire ou si c'est toi qui inspire. Enfin, il y a une sorte de communion.
Oui, oui, eh bien... Tout à fait, tout à fait. Et j'en veux pour preuve le poème que j'ai écrit pas plus tard qu'hier, en haut du mont Puget dans les Calanques, où je parle au paysage, et le paysage me répond. Je dis que le paysage attend mon poème, et que je lui dois, et qu'il est probablement frustré si au soir ou au matin je ne l'ai pas fait. Donc c'est lui qui parle. Il attend mon poème... et c'est souvent l'horizon qui nous rapproche, c'est ce que je dis. Nous sommes comme deux frères qui n'osons pas nous dire que nous nous aimons, mais qui le savons, et ce qui est suffisant. Donc voilà, il y a ce dialogue entre le paysage et moi, c'est une personne, et effectivement, l'un inspire l'autre inspire l'un.
Et on parlait d'amour, là en l'occurrence plus d'amitié peut-être.
Oh, ça c'est souvent très proche.
Est-ce qu'on peut parler d'une relation spirituelle, et je pensais notamment au panthéisme.
Non, moi je pense plus une relation amoureuse qu'une relation panthéiste, effectivement. Même si, effectivement, on m'a fait remarquer, puisque j'ai écrit donc une quarantaine de textes au long de cette dernière itinérance en Normandie, que ces textes avaient une forme de spiritualité. Alors, j'ai été le premier étonné, mais bon, probablement que la solitude, l'introspection, les pensées qui sont diverses et variées et nombreuses font qu'à un moment donné, on ressent peut-être d'autres forces, d'autres énergies, et j'ai dû transcrire ça, puisqu'on m'a dit, j'ai eu plusieurs retours qui m'ont parlé de, effectivement, quand tu parles de panthéiste, tu parles
La nature qu'on conçoit telle qu'un dieu, en fait.
Quelque chose de divin, oui. C'est tout à fait ça. Et mais pas consciemment, en tout cas. A posteriori, je l'ai remarqué. On me l'a fait remarquer.
Qu'est-ce que tu fais bouger dans cette nature, au sens de mouvoir et au sens d'émouvoir, en termes d'impression, puisque c'est le terme que tu as utilisé tout à l'heure.
Oui. Ce sont parfois des micro-détails, une herbe qui se plie, qui a un certain angle, me fait penser à une lettre, et cette, d'une lettre d'un alphabet, et pour le coup, j'ai l'impression que ces herbes m'écrivent, donc c'est vraiment de l'ordre du détail. Un son infime au fin fond d'un marécage sous des branches d'aulne, et en fait c'est un petit canard, un bébé canard qui est là, et je pense tout de suite à sa mère, à pourquoi il est seul. Donc voilà, c'est vraiment du détail, l'observation, une grande qualité d'observation, je crois.
Est-ce que tu as des moments de prédilection dans la journée où tu es amené à écrire plus particulièrement ? Tu as déjà plus ou moins répondu à cette question, puisque c'était à l'issue de tes randonnées.
Alors, j'écris à tout moment, mais j'ai des moments, effectivement, que je préfère. J'adore le matin, au réveil, c'est comme une renaissance. Et je jubile à l'idée d'être toujours vivant et de voir toujours ce paysage qui s'offre devant ma fenêtre. Donc le matin me plaît beaucoup, m'inspire beaucoup. Le soir m'inspire énormément, mais là les idées sont un petit peu plus sombres parce que la nuit va arriver, parce que c'est comme une petite mort. Mais c'est pas pour autant que je n'aime pas écrire. J'écris dans la journée quand je randonne. Je peux écrire à une table de café entourée de monde avec du brouhaha. J'aime écrire dans le silence le plus profond des forêts. J'aime écrire chez moi devant l'ordinateur. J'aime écrire partout et tout le temps.
Et l'écriture, que ce soit en termes de style ou en termes de sujet, dépend du contexte dans lequel tu vas écrire, ou finalement ça n'a peu d'importance, ça n'a que peu d'importance?
Oui, le contexte est important. Il faut que je sois dans un état d'esprit. Enfin, ce qui me plaît le plus, c'est quand je suis heureux, que je ressens une joie. Alors parfois, la joie va créer ce moment d'écriture, c'est-à-dire que je sais que je vais être heureux parce que je vais écrire, donc je vais me mettre devant mon ordinateur et tout de suite je vais être heureux. Parfois je suis heureux et du coup j'écris, donc c'est vraiment la joie. Il peut y avoir évidemment des moments de mélancolie ou qui m'inspirent aussi, plus triste, mais globalement oui, c'est ces moments-là qui sont les plus inspirants.
Quand je parlais de contexte, c'était que tu étais capable d'écrire dans un café au milieu de la foule, comme dans une grande solitude dans les Calanques, par exemple. Et je me demandais si le fond de ce que tu écrivais, la forme de ce que tu écrivais, dépendait de ce contexte-là.
Oui. Ça dépend du contexte. Effectivement, si je me trouve au cœur de la foule, je ne vais pas forcément avoir le même style d'écriture, le même style de pensée, même si je sais malgré tout, malgré la foule, me retrancher et garder une distance qui me permet d'observer. Mais pour autant, c'est certainement déterminant sur enfin ce contexte, sur ce que je vais écrire, oui.
Et est-ce que tu choisis, par exemple, d'aller dans un café plutôt que de te balader en bord de mer ou dans la montagne pour écrire telle chose dans telle dynamique?
Alors, je vais pas le choisir, non, c'est le hasard qui va créer la chose.
Et alors, pour revenir à ce bonheur qui est assez étonnant, cette fameuse joie, tu ne connais pas la page blanche?
De moins en moins.
La détresse que génère la page blanche.
La quoi?
La détresse que génère la page blanche chez l'auteur.
En tout cas, au niveau, lorsque j'écris de la poésie, parce que j'écris aussi des récits, j'écris aussi des... on va dire une forme de théâtre comique, donc des choses très différentes. Lorsque j'écris de la poésie, j'ai rarement devant moi une page blanche bien longtemps. Peut-être pour d'autres types d'écriture, et encore, et de toute façon, de moins en moins au fil de la vie. Donc plus j'écris, et plus c'est facile. En gros, on pourrait résumer ça comme ça. Il y a comme un... Je sais que ça va être facile, donc ça va être encore plus facile. Une confiance.
D'accord, c'est pas uniquement l'exercice quotidien qui fait que cette discipline instaurée te mène à la facilité, c'est la confiance.
Il y a de ça évidemment aussi, hein. La répétition fait que évidemment le mécanisme est huilé, rodé, et effectivement c'est une composante indéniable aussi de la page blanche qui n'existe pas.
Alors le mot joie, le mot bonheur, ce sont des grands, grands mots. Comment tu les définirais?
Ah ben j'ai les yeux qui s'éclairent, j'ai un grand sourire sur la bouche quand j'écris, c'est textuel, c'est une vraie joie. Je vis le moment, je suis heureux de le vivre et de le dire. Il me plaît d'être seul et de pouvoir ressentir ce que je ressens, et de savoir le décrire et transcrire ce que je ressens. On me le dit souvent, mais tu sais transcrire ce que tu ressens. Voilà, c'est un peu le, on va dire, la définition du poète quand même.
Puisqu'on parle de définition, comment tu définirais l'acte d'écrire?
Alors... écrire pour moi, c'est plus qu'un acte, c'est ce pourquoi je suis fait. Je ne ressens pas ça comme un acte. Il n'y a pas d'acte politique, il n'y a pas de conscience politique, il n'y a pas de conscience revendicatrice dans ma poésie. Même si en tant qu'être humain, je ressens tout ça. Je le garde pour moi. Ma poésie n'est pas une rébellion, une revendication. Ma poésie, si on peut ressentir effectivement un acte politique, elle va être entre les lignes. Elle va être suggérée. Enfin, cet acte, il va être suggéré. Il va être très métaphorique. On va à peine le distinguer. J'ai peu envie de le montrer, en fait. Donc l'acte d'écrire, ou l'acte poétique aussi, on peut parler d'acte poétique, j'ai l'impression qu'il est un peu absent chez moi.
C'est comme si tu étais un véhicule, finalement.
Oui, tout à fait. C'est une inclination naturelle, en fait. Voilà, le mot que je cherchais tout à l'heure, c'est une inclination.
Alors, quels sont tes mentors ?
En poésie, donc. Hein, alors, j'ai une prédilection vraiment grande pour un poète qui est mort il y a une trentaine d'années, qui s'appelle Louis Calaferte, qui est donc un immigré italien arrivé en France à l'âge adulte, qui était ouvrier et qui a écrit La mécanique des femmes et Septentrion qui avait été interdit pendant 30 ans pour... Subversion, je crois. Donc, j'ai aimé avant tout le romancier, et lorsque j'ai découvert il y a quelques années le poète, il m'a fasciné. C'est extraordinaire.
Parce que c'est subversif.
Alors, la poésie l'est beaucoup moins. Hein, elle est beaucoup moins subversive, mais même s'il y a quelques accents par moment, mais c'est plus... non, il y a de la tendresse qui est mêlée, qui me plaît beaucoup, et il y a surtout le voyage, et puis la richesse de son vocabulaire, c'est extraordinaire. Il y a des couleurs infinies. On vit avec lui lorsqu'on lit sa poésie. J'aime beaucoup celle de Jean Métellus, un poète haïtien, notamment son recueil « Au pipirite chantant ». J'aime beaucoup la poésie africaine, Sadar Senghor. J'aime beaucoup le Rabindranath Tagore, poète indien. J'aime beaucoup Aimé Césaire. Donc, ce sont tout ça des poésies exotiques. Pour autant, un de mes premiers amours a été Arthur Rimbaud, de manière assez classique. Plus que Baudelaire, par exemple.
Y a-t-il un trait commun à tous ces... poète.
Le voyage, je dirais, l'ailleurs.
J'ai envie de te poser une toute dernière question pour en revenir à ce roman, à ce recueil, pardon, qui est d'actualité, puisqu'il il est sorti quand ce recueil. Fin mai, donc c'est nous sommes tout début juillet, il y a un mois et demi. Quoi.
Un mois, oui.
Et qu'est-ce que tu aimerais dire de ce dernier recueil avant de passer à quelques lectures?
J'ai simplement envie qu'on le lise et qu'on me dise ce qu'on en pense, évidemment, avoir des retours sur lui. J'ai envie de le lire à tout le monde. Et j'ai envie d'en écrire un autre.
D'accord. Donc, il y a quelque chose de l'ordre du partage dans ce livre.
Tout à fait, tout à fait. J'ai eu un retour d'une connaissance qui m'a dit, et ça m'a beaucoup touché, après avoir lu mon recueil, qu'elle a laissé ce commentaire, en fait, sur Babelio. De critique, où elle dit que ma poésie, ce recueil est généreux, ma poésie est généreuse, comme on pense que l'auteur l'est, sa poésie vous enroule et vous borde. Et bien voilà, j'ai envie de faire ça.
C'est aussi ce que moi j'ai pu ressentir quand j'ai pu te lire sur les réseaux sociaux. Ce côté vraiment tout doux, accueillant, cocon. Voilà, moi j'ai ressenti ça. Et quand tu dis que tu penses déjà au prochain, quelle projection tu en as?
Comme j'écris de manière incessante, j'essaye d'avoir une cohérence dans certaines idées. Là, en ce moment, j'essaye d'écrire sur la solitude. J'ai peut-être même déjà le titre qui serait la solitude dans tous ses états. Donc j'écris à peu près 25 textes déjà. Et le fil rouge, ça serait ça, et je me tourne vers l'avenir, même si j'ai bien envie de faire profiter de ce recueil malgré tout. Hein.
De ce recueil, oui. Sur les mots, spectacle, oui. Du quotidien. Est-ce que
c'est bien résumé, oui, et puis les mots qui bordent, voilà.
Les mots qui bordent. Bah écoute, merci. Est-ce que tu souhaiterais nous en lire quelques passages?
Bien sûr.
Ah si, j'avais une question concernant la construction de ce recueil. Tu as décidé de mettre les textes bout à bout, selon quelle logique?
Il y a 5 thématiques, il me semble, dans ce recueil. Les mots proprement dits, la ville, la Provence et la mer, la lune, et le cinquième, l'horizon de mon balcon. Voilà, et là, il y a bien une vingtaine de poèmes.
Donc, on y revient toujours à ces thématiques et aux mots pour les exprimer.
Tout à fait, tout à fait. Et une bonne moitié des poèmes de ce recueil ont été écrits inspirés par des photos prises depuis mes fenêtres.
Alors, je t'écoute.
Les herbes m'écrivent. De leur petite écriture serrée, qu'on y revient toujours, de leur petite écriture de mouche, qu'on ne le comprend pas, mais qu'on y revient toujours. Elles m'écrivent tous les jours et je fais de même. Depuis un jour vieux où je me suis évadé et que je cours doucement au coin des rues. Depuis ce jour où je laisse les autres parler. La place manque sur la page de leurs histoires. C'est pourquoi leur petite écriture est joliment serrée, avec des cohues de parenthèses et des phrases longues comme j'aime, tant que je m'y perds. C'est qu'elles ont tant à me révéler, m'annonçant chaque jour où je reçois leur missive, si aujourd'hui la brume se lèvera sur les montagnes, si l'ombre est épaisse derrière les pierres, si l'ardeur de la lumière ose le reflet. Et comment un homme dit à sa femme ce qu'il n'arrive plus à lui dire. Je me repais de ces points-virgules et de ces longues barres ôtées. Je ne l'ai toujours pas compris, mais j'y reviens. L'inéluctable horizon attire mon regard comme chaque matin. C'est que chaque arbre, oiseau, chaque pierre, nuage, y trouve son aventure. C'est que chaque arbre, oiseau, chaque pierre, nuage, me la raconte. Dans l'informulable, je recueille leurs confessions. Il s'y trouve des trésors, faut-il vous le dire. Chacune de leurs pages feuillette mon échine, dans un léger tremblement. J'y lis le méli-mélo du lit de l'eau, le vent qui décoiffe la cime des pins, les poissons libérés, le givre des longues plaines. Parfois même, et peut-être les rizières de Java, leurs étages incessants, et ce temple de pierres sombres. J'y relève le parfum doucereux d'une poudre de riz, et d'autres petites choses, comme un daim dans son élégante robe tachetée. Demain, je les rejoindrai, l'arbre et l'oiseau, la pierre et le nuage, de mon horizon.
Et un dernier texte, peut-être un tout petit peu plus court, si tu as ça en magasin.
Ma lune, ma chère lune, mon amour, je sens la mélancolie me gagner. Mon amie de fortune, la seule, parfois tu me réconcilies avec les hommes. Ma lune, ma compagne, j'ai besoin de ton éclat, parfois de ta discrétion. Mamie, aux claires écumes, je me dirige vers tes mystères, car rien ni personne ne m'attire autant que toi.
Merci. J'avais une question, alors je ne sais pas si j'intégrerai à l'interview, mais est-ce que tu as déjà entendu tes textes lus par d'autres personnes ?
Rarement, presque pas.
Et tu aimerais bien ?
Oui, bien sûr.
Pour ressentir quelque chose,
oui,
pour que ça
différent.
T'amène quelque chose de différent.
Ah,
et
oui.
Pourtant, tes textes sont appris dans certaines écoles, apparemment.
Oui, tout à fait. Oui, oui, ce sont des textes qui sont... En fait, c'est une connaissance qui m'a demandé, qui fait partie de mes abonnés, de ma page Patrick Aveline Poésie, et qui m'a demandé si j'avais pas des poèmes qui pourraient s'adresser à des enfants. Donc je lui en ai envoyé quelques-uns et elle en a sélectionné trois qui ont été appris dans sa classe. Voilà.
Ok. Merci. trouver le recueil « On y revient toujours » à la librairie Lilomo de Marseille. Le commander chez votre libraire ou toute autre plateforme de vente en ligne. Idem pour « Parfums péninsulaires » ou « Les tribulations d'un champenois en Indochine » d'Albert Aveline, l'arrière-grand-père de Patrick qui a créé, commenté et annoté cet ouvrage. À bientôt et merci à Radio Galère.